Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui,
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça me fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler de cinéma et pour parler de Cannes qui vient de s'achever puisque une partie d'équipe y était. On va faire un petit débriefing de ce palmarès et on va parler aussi de films qui étaient projetés.
Oui, je vous parlerai de Marcello Mio que nous avons eu la chance de voir à Cannes, le dernier Christophe Honoré, ainsi que d'un autre film qui n'était pas à Cannes. Fainéante de Karim Dridi.
Puis toi, tu as vu un bien autre film, Guillaume.
Oui, mais aussi à Cannes, hein, mais en hors compétition, c'est Furiosa de George Miller.
Et puis toi, Manu.
J'étais pas du tout à Cannes et le film n'était pas sélectionné du tout à Cannes. C'est un film d'horreur, Abigail.
Mais nous commençons par faire ce petit débriefing de la 77e édition du Festival de Cannes.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Voilà, ça y est, la 77e édition du Festival de Cannes. Donc, c'est achevé avec son palmarès accouché par le jury présidé par Greta Gerwig. Avant de revenir rapidement sur cette édition, on écoute un résumé de la cérémonie du palmarès. Ça dure 5 minutes.
Ils ont vu 3 films par jour, c'est beaucoup. Réjouissons-nous d'accueillir le jury de la sélection officielle.
Le scénariste photographe turc Ebru Ceylan, le réalisateur, producteur et scénariste espagnol Juan Antonio Bayona, l'actrice américaine Lily Gladstone, l'acteur producteur français Omar Sy, la réalisatrice et scénariste libanaise Nadine Labaki, le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, l'actrice française Eva Green et l'acteur italien Pier Francesco Favino. Enfin, j'appelle leur présidente Greta Gerwig.
Chère Eva Green, à qui décernez-vous le prix du meilleur scénario?
Ce prix est attribué à un film osé, un peu fou, le film de Coralie Forja. Ce film parle des femmes, l'expérience des femmes dans le monde et la violence qui peut entourer ces femmes.
Younger, more beautiful. More perfect. Be another version of yourself. This is the substance.
Le prix d'interprétation féminine sera au pluriel. Ce prix est accordé à
prix d'ensemble pour Emilia Pérez.
Et je dédie aussi ce prix à toutes les personnes trans, à nous toutes qui souffrons tant, nous tous qui avons tant souffert. Et je veux que finalement ces personnes arrivent à croire, comme dans Emilia Pérez, qu'il est toujours possible de s'améliorer. Il est toujours possible de changer pour mieux. Donc vous tous qui nous avez fait souffrir, il est temps aussi maintenant que vous changiez.
Quel acteur reçoit le prix d'interprétation masculine?
J'ai l'honneur et le plaisir donc de remettre le prix à Jesse Plemons dans Kind of Cadness de Yorgel Lanthimos.
Jesse n'a pas pu venir ce soir, donc je vais lire son message.
Je crois, chère Greta, que vous avez décidé de remettre un prix spécial du jury.
Nous attribuons le prix spécial du jury à Mohamed Rasoulov pour The Seed of the Sacred Faith.
Je veux plus spécifiquement parler de Toumaj Salehi, qui est condamné à mort aujourd'hui uniquement en raison de sa création artistique. Ne permettez pas que la République islamique traite ainsi les Iraniens.
The best director goes to
donc le prix de la
Miguel
mise
Gomez.
En scène va à Miguel Gomez.
Je remercie le cinéma portugais car je sais d'où je viens.
Merci.
Le prix du jury va à un film qui célèbre l'identité, la mémoire et le cinéma.
Así que viva el cine, que viva México y que viva Emilia Pérez.
Je ne suis pas Jacques Audiard. Jacques Audiard est bloqué dans un taxi. Il m'a demandé de vous lire un mot. Mais comme Carla Sofia a à peu près tout dit, je ne pourrai que répéter, donc je ne répète pas.
Would you please tell us who is the Grand Prix?
Grand Prix goes to Orui Imagine Azlai.
C'était déjà un rêve d'être sélectionné ici à Cannes.
Dear Greta, would you please?
Chère Greta, s'il vous plaît, ce film est magnifique, rempli d'humanité. Il nous a envoûtés, nous a permis de rire, espérer au-delà de l'espoir et nous a brisé le cœur. La Palme d'Or est attribuée à Anora de Sean Baker.
This is to all sex workers, past,
cette
present and future.
Palme d'Or est pour toutes les travailleuses du sexe, passé, présent et futur. Merci.
Si vous ne l'aviez pas vu à la télévision, diffusé sur France Télévisions, eh bien c'était un petit résumé donc, du palmarès de cette 77e édition. Alors, je ne suis pas vraiment raccord avec ce qu'a décidé le jury. Alors, je n'ai pas vu tous les films, mais j'ai vu bien quasiment tous les films qui ont été primés, sauf le Lanthimos, hein, qui a permis à Jesse Plemons, habitué à jouer les méchants à tout va, eh bien, d'obtenir le prix d'interprétation masculine. Alors, je le dis tout net, j'aurais donné la Palme d'Or à Emilia Pérez de Jacques Audiard, parce que le cinéma, si c'est de la forme, c'est aussi du fond et aussi un lien que l'on fait avec le spectateur. Il y avait tellement d'accord entre ce film et les spectateurs qu'il m'apparaît regrettable de ne pas l'avoir mis où il devait être, soit sur un piédestal. Alors pour son film, Audiard, en s'emparant de l'histoire d'un patron de cartel mexicain souhaitant changer de genre, eh bien est parti d'un sujet actuel pour traiter d'un sujet plus universel. Est-ce que l'homme peut s'améliorer? Et il le fait en chanson, en mode comédie musicale. C'est une vraie réussite. Dans Anora, la Palme d'Or, Sean Baker se place dans l'anecdote, le cliché, le stéréotype et brouille le genre avec un drame qui flirte avec la comédie ou le contraire. Alors, je ne comprends pas toujours ce qu'on trouve à ce film. Hein. Je ne sais pas comment Greta Gerwig y trouve de l'humanité. Alors, autre faute du jury, le prix du scénario attribué à The Substance, qui est une fable avec plein d'énormités et d'incohérences. Le film de body horror est bien emballé. Il a rendu les séances cannoises animées, mais un prix du scénario me semble complètement exagéré. J'avoue que je n'ai pas non plus de remplaçant à donner. Hein. Alors, le jury s'est bien rattrapé en revanche en donnant un prix spécial à défaut de la Palme d'Or, qui était un peu pressenti pour Mohamed Rasoulah, avec les graines du figuier sauvage. Présent lors de la projection avec l'équipe du film, j'ai pu mesurer l'importance d'une telle programmation au Festival de Cannes, d'un film qui, comme beaucoup de longs-métrages iraniens, bien s'empare d'un sujet universel pour poser une question morale qui questionne ensuite la situation de l'Iran, mais tout régime finalement autocratique. Et il y avait une vraie émotion, évidemment, à voir le réalisateur iranien brandir les portraits des deux personnages principaux de son film qui n'ont pas pu se déplacer, alors que lui, eh bien, pour venir à Cannes, a dû filer, passer en douce dans les montagnes. Je pense qu'il ne retournera pas en Iran. Le prix d'interprétation féminine donné aux quatre comédiennes d'Emma Pérez était aussi bienvenu. Quant au prix de la mise en scène à Michael Comès, cela apportera quelques spectateurs en plus, mais je doute que le bouche à oreille soit efficace pour ce film trop formel et désincarné, l'exact contraire d'Emilia Pérez. Avec le réalisateur portugais, on perd le sujet. Alors, personne n'est capable de dire de quoi ça parle, sinon en discutant de la forme singulière qui mêle différentes époques et formats d'image. Alors, on peut apprécier ou pas, mais c'est vrai que j'ai entendu personne me dire « Mais tiens, ça parle d'un sujet précis, très précis. » Enfin, non. Voilà. Tout le monde a parlé de la forme plutôt que du fond. Quant au film indien « All We Imagine As Light » de Payal Kapadia, alors il est plus abordable que le film de Gomez, mais la réaction dans la salle cannoise a été à peu près identique. Il y a eu de nombreux départs dans la salle. Alors, il faut bien dire qu'entre cette rigueur typique de l'art ASF fauché et des films comme L'amour ouf de Gilles Lelouch, Le Limonov de Serebrennikov ou de Apprentice d'Ali Abbasi qui dure plus de 2 heures et qui cloue tout le monde au siège, il y a un monde que le palmarès du Festival de Cannes a bien séparé. Voilà, c'était ce que je pouvais dire en résumé de cette édition cannoise. Alors, tu y étais aussi, Sophia, peut-être que tu as deux, trois choses à dire.
Oui, je ne suis pas du même avis que toi concernant Anora de Sean Baker, mais voilà, dès lors qu'on est sorti de la salle, il y avait vraiment une césure entre ta réception et la mienne. J'y vois beaucoup de... Ouais, beaucoup d'expérimentations comiques en première partie de film et un fond très intéressant sur justement la condition des travailleuses du sexe et également les violences sexuelles faites aux femmes.
On clôt cette partie cannoise, mais finalement on y revient un peu via le film de Christophe Honoré. On demande à Chiara Mastroianni d'être un peu moins Catherine et un peu plus Marcello, et il n'en faut pas plus pour qu'elle prenne les traits de son père. Nous parlons de Marcello Mio.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Comme nous l'avons dit, Marcello Mio était très récemment en compétition à Cannes où il concourait pour la Palme d'Or. C'est là que nous avons eu la chance de le voir. Christophe Honoré présentait avec cette réalisation encore un film de cinéma qui parle de cinéma dans la lignée du film de Dupieux projeté en ouverture du festival Le Deuxième Acte. On retrouve dans Marcello Mio un casting presque exclusivement français, quasi patrimonial, où chaque protagoniste, à l'exception de Hugh Skinner, incarne son propre rôle. Chiara Mastroianni y tient le rôle principal, ou peut-être est-ce son père, Marcello Mastroianni, qui lui dérobe le premier rôle. Catherine Deneuve, la mère de Chiara, y joue la mère de Chiara, puis on a les amis de longue date, ex-petits copains, nouvelle fréquentation de Chiara et de sa mère, hein, tous également dans leur propre rôle. Benjamin Biolay, Melville Poupeau, Fabrice Lucchini, Nicole Garcia, pour ne citer que.
J'ai encore rêvé de mon père cette nuit. C'est comme s'il me hantait. Enfin non, plutôt c'est comme si c'était moi qui étais devenu le fantôme de mon père.
Il te manque, c'est tout. Sans moi, le
monde peut bien tourner. Mais Chiara, tu peux m'expliquer ce que ça t'apporte de faire ça?
Ben, ça me rend heureuse.
Dis-toi qu'elle est comme une somnambule. Et... faut pas la réveiller brusquement.
Alors voilà, un été, Chiara Mastroianni se sent hantée par son défunt père, l'illustre acteur italien Marcello Mastroianni. Ou plutôt, comme elle le précise, elle a l'impression d'être son fantôme. Elle va alors commencer à s'affubler de toutes les caractéristiques physiques de son paternel. Elle s'habille et se coiffe comme Guido, le Marcello Mastroianni de 8,5 de Fellini. Et tout y est, les lunettes, le costard, la coupe de cheveux, le chapeau, ça va jusqu'aux mimiques, à l'attitude et à la langue italienne. Alors, il est intéressant de relever ce choix. Dans 8,5, Guido, un réalisateur miroir de Fellini, fuyait le monde du cinéma pour se réfugier dans un univers peuplé de souvenirs d'enfance et de fantasmes, accompagné de discussions avec mère et père décédés. Ici, Chiara fuit le cinéma aussi, dans une forme de crise existentielle ou quête d'identité, se questionnant aussi sur son métier de comédienne, également la profession de son père. Alors autour d'elle, son entourage reçoit plus ou moins bien cette transformation qui passe initialement pour une blague ou un caprice. Et en fait, petit à petit, à l'exception de Melville Poupeau, tout le monde finit par accepter cette lubie.
J'étais tellement heureux de t'avoir rencontré, tellement fier.
La mise en scène s'enrichit de nombreuses références filées à la filmographie du père Mastroianni. Ça commence d'emblée avec la scène de la fontaine qui ouvre le film et renvoie à la Dolce Vita de Fellini, encore, où Chiara doit porter une perruque et jouer le rôle d'Anita Ekberg en criant « Marcello !» poussée par une réalisatrice frénétique qui la sursollicite et lui enjoint en fait d'invoquer son père. La scène tragicomique laisse clairement entrevoir le malaise de Chiara et le drame intérieur qui se profile, sans que ce soit vraiment développé plus que ça. Christophe Honoré ne rend pas forcément hommage à Marcello Mastroianni dans ce film, mais aux acteurs, à la théorie de ce qu'est être acteur ou actrice. Il s'intéresse ici à la question de la filiation, aux 50-50 qui composent Chiara, fille de deux grands monuments du cinéma de la deuxième moitié du XXe. Elle qui est un morphing de deux vedettes, on peut véritablement parler d'une actrice qui porte en elle les spectres de ses deux parents. Nicole Garcia lui demande d'ailleurs, dans une scène où Chiara et Fabrice Lucchini se donnent la réplique, de la jouer moins Catherine Deneuve et plus Marcello Mastroianni, comme tu le disais bien Vincent juste avant. Une réflexion se tisse ainsi peu à peu sur ce qu'on appelle communément les nepo babies, contraction de népotisme et de baby, qui renvoie donc aux fils et filles d'eux, des enfants qui ont le privilège de pouvoir s'appuyer sur la notoriété de leurs parents pour réussir, notamment dans le milieu culturel. On reconnaît la difficulté générée par cette position et cet héritage difficile à tenir pour Chiara, d'autant qu'on peut bien s'imaginer que ce terreau constant de comparaison identitaire est agrandi par le deuil, la perte, le manque d'un être cher, mais dans le même temps, Christophe Honoré se contente de survoler ces thématiques-là.
On est d'accord que Marcello n'est pas Marcello.
Mais alors chérie, qui te dit que Lucchini c'est Lucchini ?
C'est vrai qu'avec ce casting très bon chic bon genre, on s'attend bien à mettre les pieds dans un film de Christophe Honoré qui fait du Christophe Honoré, avec les acteurs et les actrices qu'il aime, dans un microcosme petit bourgeois assez exigu et parfois exsangue. Alors oui, c'est méta, on a affaire à un cinéma qui se regarde un peu le nombril. Le lien au père, les souvenirs, le deuil et la mémoire sont autant de thématiques développées assez mollement. La question de l'hérédité dans cet entre-soi hermétique nous donne à voir un film complaisant qui hésite longuement à se saisir des questions qui le sous-tendent. Par exemple, quid de l'état du cinéma français actuellement, du cinéma italien également, post-télévision berlusconienne, hein, ce à quoi le film fait quand même référence, quid de leur mémoire, de leur ruine. On peut reprocher donc en outre à Christophe Honoré d'éviter de s'encombrer de la difficulté de scénariser de potentielles confrontations mère-fille, de la même manière qu'il évite sciemment, avec des pirouettes fantaisistes, de donner plus de matière à ce qui anime intérieurement Chiara et ce qui est à l'origine de sa crise existentielle. Bon, voilà, depuis les chansons d'amour, on sait quand même, dans cette première collaboration entre Chiara Mastroianni et Christophe Honoré, on connaît la propension du réalisateur à faire recours à la comédie musicale lorsqu'il faut scénariser des moments compliqués via les compositions d'Alex Baupin, encore une fois, ici. Il fait chanter Catherine Deneuve également. On a donc, au final, un film sans surprise un peu nombriliste, mais à la poésie douce et réflexive, qui trouvera assurément des échos, pour peu qu'on se laisse emporter par son vertige.
Marcello Mio de Christophe Honoré est en salle depuis le 22 mai. Présenté hors compétition à Cannes, Furiosa une saga Mad Max fait bien moins que le précédent opus au box-office, mais ça ne nous empêche pas d'en parler.
Ben oui, c'est le film est bien.
This is Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
Quand j'étais enfant, mon monde a basculé. Ma mère était prodigieuse. Et lui, il m'a tout pris.
Il y a 9 ans, le cinéma connaissait un bouleversement comme il n'en rencontre à peu près qu'une fois par décennie. Alors arrive sur nos écrans le film qui redéfinit un genre, une manière de filmer et précise une philosophie du geste cinématographique. Car oui, Mad Max Fury Road est une chanson de geste, un poème visuel et un conte barbare philosophique qui réussissait à atteindre la perfection par l'épure. Il faut aussi dire que lorsqu'on a signé les Mad Max, mais aussi les deux Babe, les deux Happy Feet ou encore 3000 à t'entendre, on s'y connaît en mythe et mythologie et quasiment personne d'autre que George Miller ne pouvait aussi purement aller directement au cœur de son propos. Alors l'avantage de l'âge, de sa maîtrise, et quelle maîtrise ? Il y a 9 ans, nous étions témoins.
Elle vient d'une terre d'abondance. Voici notre destinée.
Il m'a pris mon enfance. Ma mère. Je veux qu'on me les rende.
Furiosa est en train de mordre la poussière au box-office mondial, victime d'une appréhension stupide vis-à-vis d'une bande-annonce qui, je cite un peu partout, rappellerait trop le film précédent. Bon, c'est bien la preuve que les pseudo-spécialistes de Miller ne savent pas faire la différence entre Mad Max 1 et 2, Babe 1 et 2, et encore Happy Feet 1 et 2, et raconterait quelque chose de déjà évoqué. Alors, pour étayer mes propos, je fais exprès de citer quelques petites pensées de la seule brillante critique que j'ai pu lire de mon confrère Johan Orzuling sur ce sujet, rapportée de son site bien nommé Furiosa, en référence à qui vous pensez. Car il a su bien plus que le parc de critiques saisir l'essence, vous l'avez, même du génie de l'après-quel de Fury Road. Alors en se focalisant sur les origines de Furiosa, George Miller prenait un vrai risque, celui d'amoindrir la fascination qu'exerçait le personnage campé par Charlize Theron depuis la sortie de ce film matriciel en 2015. L'exercice du préquel a ceci de particulier qu'il ait la tendance à évacuer les zones de mystère, le hors-champ narratif et symbolique dans lequel se projette le spectateur, et donc par extension on cherche à rationaliser, voire parfois contredire le sens qui a permis à une œuvre, à un personnage de traverser le temps. Comme il avait jadis fait sur Mad Max 2 vis-à-vis de Max, Miller va faire de Furiosa un véritable mythe dans le sens cambélien qu'il affectionne tant. Alors petite précision pour les non-initiés à la science des récits et de la narration, l'adjectif cambélien vient de Joseph Campbell, un professeur qui a su théoriser en une structure très précise et qui a fait école la manière idéal et archétypal d'écrire un mythe. Alors il s'est rendu compte au cours de ses études que toutes les mythologies du monde entier avaient en fait le même tronc commun, une même structure qu'il va mettre à nu et qui va influencer le monde du cinéma à partir des années 50. Alors si vous visualisez le squelette narratif de Star Wars ou encore d'Avatar, ça y est, vous savez de quoi je parle. Et Mad Max, il n'échappe pas à ça. Rappelez-vous de la voix traumatisante du narrateur de Mad Max 2 qui s'avérait être un témoin de l'aventure. Ici, c'est la même chose, à la différence près que Max n'est plus là et que Furiosa occupe désormais toute la lumière que Miller avait déjà bien détournée vers elle dans Fury Road. Rhodes, conscient que le renouveau passerait par elle et non pas par une figure du passé qui a fait son temps. Comme quoi, en dépit de ses 80 printemps, Miller a aussi la délicatesse et l'intelligence de ne pas tomber dans le piège de la nostalgie nécrophile.
Où tu t'en allais ? Avec du désespoir ? Il n'y a aucun espoir !
Si tu le trouves, il est à moi.
Alors que Fury Road prenait appui sur une course-poursuite tributaire du dernier tiers de Mad Max 2, ce nouveau métrage propose quant à lui de revenir au fondement même de la saga, en convoquant le sous-genre du film de vengeance qu'explorait George Miller lorsqu'il entama la mise en chantier du premier Mad Max dans les années 70. Alors j'en veux pour preuve l'écho au broyage du bras de Gibson dans le premier volet de la saga, événement passé sous silence dans Fury Road, ici explicité dans une séquence à l'intensité proprement infernale. Alors George Miller se sert de la structure Campbellienne pour faire de la vengeance de Furiosa une relecture post-apocalyptique de celle d'Edmond Dantès dans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, soit l'histoire d'un être emprisonné pendant plusieurs années qui, après son évasion, va se construire une nouvelle identité pour infiltrer les sphères du pouvoir dans lesquelles évoluent ses anciens tortionnaires afin d'accomplir sa vengeance. George Miller utilise Furiosa pour parler d'humanité, de la condition humaine, de l'attrait pour le chaos et la destruction, comme en témoigne la guerre que se livrent inlassablement les War Boys, bien nommés, mais d'où surgira toujours une note d'espoir et la nécessité de s'engager pour quelque chose qui nous tient à cœur. La pulsion de mort côtoie la pulsion de vie tout au long du récit, jusqu'à sa conclusion hautement symbolique et qui finit d'appuyer le personnage de Furiosa comme un véritable mythe du 7e art. Bon bref, si vous n'êtes pas encore allé le voir, qu'attendez-vous ?
Oui, et puis regardez-le en IMAX, parce que ça envoie. Nous parlions de Furiosa, et maintenant nous allons passer à un film d'horreur, aux prises avec une fillette étrange. Ses ravisseurs disparaissent au fur et à mesure de la nuit. Nous parlons d'Abigail.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Après les dispensables, alors pour rester poli, Scream 5 et 6, le duo Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, alors libérés des impératifs d'une franchise à bout de souffle, retrouvent l'impertinence et la folie douce de Wedding Nightmare. Avec Abigail, ils reprennent le contrôle d'un film qui file droit, alors comme un morceau de rock festif, comparaison pas si inopportune quand on connaît le passif punk des deux compères issus du collectif Radio Silence. Leur nouveau film possède une fraîcheur salvatrice débarrassée de tout cynisme et références méta qui encombrent les productions récentes. Alors le premier plaisir éprouvé devant le film tient à son scénario malin, réservant régulièrement des surprises plus ou moins inattendues et jouant habilement avec les codes d'un genre à l'autre. Dès son ouverture générique, le ton malicieux est donné, une jeune ballerine au regard perçant danse sur le lac des cygnes dans un grand théâtre vidé de son public. Alors image fantasmée ou réalité, peu importe, cet enfant Abigail est la fille d'un puissant mania de la pègre, un intouchable qui semble terrifier tout le monde. Pourtant, un groupe de criminels qui ne se connaissent pas entre eux, comme dans certains classiques de films de casse ou de films noirs, tels que Le Quatrième Homme de Phil Carlson ou même Reservoir Dogs, kidnappent la gamine afin de percevoir une rançon de 50 millions de dollars. Leur rôle, l'enfermer dans un grand manoir et la surveiller pour la nuit. Alors, rien de plus simple en apparence, sauf que le plan initial ne va pas se dérouler comme prévu, avec un premier twist, alors largement éventé par la bande-annonce et l'affiche, au bout de 40 minutes.
Tu sais ce que ça veut dire, premier juré ? Si tu es sage et que tu fais ce qu'on dit, premier juré, tout sera bientôt fini.
Joey ?
Oui ?
Je suis vraiment désolée de ce qui va t'arriver.
Du thriller classique, reprenant les tropes du film de kidnapping, Abigail vire au pur cinéma d'horreur viscéral et addictif, avec un concept que n'aurait pas renié un William Castle. D'ailleurs, le film rappelle les productions Dark Castle des années 90-2000. On retrouve dans Abigail l'atmosphère alors clinquant et jubilatoire d'un spectacle de foire, tout en simulacre, que n'aurait pas renié William Castle, qui était d'ailleurs producteur de Rosemary's Baby. Alors, dès l'évocation de la silhouette fantomatique en arrière-plan du gangster démoniaque, Lazare, cousin lointain de Kaiser Soze, le film prend une dimension surnaturelle qui ne quittera plus. Alors dans un décor labyrinthique, en huis clos, les deux cinéastes s'amusent à manipuler le spectateur pour le simple plaisir du jeu. Ils multiplient les séquences ludiques, exhibant la jeune ballerine dans des positions acrobatiques d'une étonnante élégance visuelle, tout en ne lésinant pas sur les effets gore graphiques. Alors certes, les personnages assez antipathiques sont caractérisés à gros traits, chacun étant défini par un profil type, amené sans nuance. Alors l'ex-alcoolique qui veut retrouver son enfant, la geek reine de l'informatique, le junkie, l'ex-flic ripou, le sniper et le garde du corps bêta. Alors, ils peinent à exister à l'écran, d'autant que leurs agissements ne paraissent pas toujours logiques. Mais bizarrement, leur, inconsistance finit par prendre son sens, car ils n'ont pas été débauchés par hasard. Leur amateurisme fait partie d'un programme transformant un banal film policier en un slasher inventif qui s'autorise de savoureux écarts de conduite avec des touches d'humour décalées.
Ok, comment on tue un vampire? Tu veux la méthode Anne Rice? Ou True Blood? Ou Twilight? Un pieu en plein cœur. La lumière du jour, ça marche aussi.
D'accord, tout ce qu'on a à faire, c'est buter un vampire.
Là, vous savez de quoi on parle hein, en écoutant la bande-annonce, mais il y a une scène très marrante où on demande d'amener il y a un personnage qui demande à une nana d'amener de l'ail, elle lui ramène un sac d'oignons. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire en fait. Alors, vampirisée par la prestation phénoménale de la jeune actrice hein, expressive et très à l'aise avec son corps, Alicia Ware, Abigail procure une sensation d'euphorie permanente comparable à une excursion dans un train fantôme. Alors, ce joyeux jeu de massacre, hein, retour d'un fantastique premier degré, ne cherche rien d'autre que le pur divertissement. Alors, pas de second degré ni de double lecture. Hein. Ce rapport frontal au genre ne signifie pas que le film ne pense pas qu'il n'est qu'une coquille vide. Sa beauté tient à sa générosité, et à ce désir de revenir à un cinéma de sensations pures, troué de fulgurances visuelles et de plans iconiques. Alors même si certains retournements de situation tombent à plat et si les dialogues explicitent des enjeux que la mise en scène est parfois incapable de suggérer, Abigail remplit son contrat, embarquer le spectateur dans un pur trip forain dont l'émotion et la poésie souterraine surgissent derrière sa facture industrielle par la seule présence monstrueuse du personnage éponyme, alors tour à tour effrayant, touchant et hypnotique.
Nous parlions de Abigail actuellement dans les salles de cinéma. Deux amis partent sur les routes pour faire la fête. Nous parlions de Fainéant de Karim Dridi.
Il n'y aura aucune discussion à ce sujet.
This is Cinérama.
Vos paroles dépassent votre pensée.
En 30 ans de réalisation filmique, le franco-tunisien Karim Dridi n'a cessé de réaffirmer un intérêt marqué pour les marges, les oubliés qui les peuplent, s'intéressant à des profils et personnages peu représentés à l'écran, dont il dresse des portraits touchants, se jouant des a priori qu'on nourrit à leur égard, mais sans convoquer de pitié pour autant. Ici, avec l'aide de la scénariste et productrice Emma Soisson, il laisse enfin le rôle principal à un duo de femmes, des sans-dents, ou moins que rien, des punks à chiens que Karim Dridi avoue lui-même avoir regardé aussi, un peu du coin de l'œil, non sans une forme de mépris. La fiction ouvre sur l'arrestation de deux amis inséparables, Nina et Jules, expulsés d'un squat. On se croirait presque quelques instants dans un film post-apocalyptique lorsque s'enchaînent des scènes où les deux femmes relâchées en liberté siphonnent le réservoir d'un camion ou farfouillent les poubelles en quête d'eau et de victuailles. L'intrigue se situe bien au-delà d'une frontière hein, qui n'est pas celle de l'apocalypse, mais tout simplement les bornes de notre société capitaliste bien rangée.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits.
Doucement, je travaille demain.
Sachant rire et mal.
Formellement, la mise en scène se révèle ample car après une dispute entre les deux jeunes femmes, leur chemin se sépare et le montage alterne dès lors entre ces deux protagonistes principales, révélant des échos entre leurs aventures respectives, avec quelques belles transitions en surimpression qui rappellent aux liens qui les unissent, à leur obsession pour la route, les grands espaces et la liberté. Bien qu'il emprunte au drame et au documentaire, Dridi ne teinte pas pour autant son récit d'une nappe trop mélo, il renonce à perdre ses personnages dans des ressorts excessivement dramatiques. Évidemment, les chemins des deux routardes sont parsemés d'embûches, de moments heureux aussi, de galères souvent, et sans véritable logique scénaristique, on saute mécaniquement d'un événement à un autre, d'un côté à l'autre de ce duo sororal qui est véritablement l'épine dorsale et le moteur scénaristique du film. Ces allers-retours entre les deux pôles qui composent ce binôme atypique participent bien à dépeindre une forme de désordre global, imprévisible, à l'image de ces deux personnages en marge de tout ordre établi.
On va la faire la fête, on n'est pas des feignantes.
Ainsi, le titre du film, Fainéante, s'affiche comme une antiphrase puisque le métrage donne à voir des personnages qui ne refusent pas de travailler, hein, la pénibilité des emplois saisonniers qu'elles occupent en est la preuve, mais qui considèrent l'activité salariale comme un choix, pas une obligation. Par ailleurs, elles sont aussi prêtes à bien des efforts et à payer le prix fort pour cette liberté. En filmant un sujet dur, le film parvient à rester solaire et c'est en grande partie grâce aux deux actrices qui crèvent l'écran par leur naturel et une présence très forte, très singulière, autant de par leur physique que leur voix, leurs attitudes et leur jeu que je considère impressionnant de beauté. Résultat, une très belle ode politique à la liberté et à la tolérance des différences, aussi anticonformistes que le sont ces personnages.
Fainéante de Karim Dridi est en salle depuis le 29 mai.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il me
me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous parlerai du dernier film de Bruno Podalides, La Petite Vadrouille. Et quant à vous,
je rendrai un hommage à Roger Corman, qui est décédé récemment.
Et puis toi, Guillaume, c'est une ressortie.
Oui, une ressortie, mais pas petite. Hein. 300 écrans, c'est à l'occasion des 80 ans du débarquement. C'est la ressortie du film qui a changé la manière de faire des films de guerre. Hein. Rien de moins, c'est Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg.
À la semaine prochaine.